expliquer comment ça peut fonctionner. Là, il faut mettre la prise. Ouais. Attends. Je pense que... Oui, ça marche. Ah, pardon. J'ai vu chez les intellectuels. Là, je ne vais pas mettre une prise.
Non, là.
Les dominicains sont réputés pour être des intellectuels, alors qu'ils sont studieux normalement. Ils aiment l'étude, ils sont là pour contempler la vérité, et puis pour après pour la transmettre.
Nous, il n'y a pas de miel, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de vache, il n'y a pas des tas de belles choses que font les frères bénédictins ou d'autres familles religieuses. Le chant. La prière du matin, l'aude, la prière du soir, vêpres, complies ou vigiles. La messe quotidienne.
Le dominicain, j'écoute.
En fait, la parole, c'est un peu notre vie, de toute façon. Que ce soit pour parler en conférence, que ce soit pour chanter, même dans les chuchotements des confessions, de toute façon, une très très grande partie de notre, de ce à quoi nous consacrons nos efforts, notre discipline, à quoi nous nous formons, ça consiste à maîtriser la parole. Donc, une chose qui m'a marqué, c'était lors d'un séjour que j'ai fait justement, en me demandant si je rentrais dans l'ordre ou pas. On va refaire on va le refaire à deux voix. Toi, tu feras cette voix-là, et moi, je pourrais faire celle du bas, comme ça. Une conférence faite par un frère sur le commentaire de quelques icônes de la résurrection. Encore une fois, il faut que ça vienne des tripes, ça. Hein, voilà. Et c'est vrai que ce frère était un homme de la parole, qui était d'ailleurs incapable d'écrire, mais en revanche, il avait dans la voix des espèces de formules qui revenaient dans ses conférences, des leitmotifs qui rythmaient son propos, comme un refrain dans une chanson, en fait, alors que c'était une conférence. Et il avait une manière aussi de poser sa voix, qui fait que c'était une expérience sonore extraordinaire. C'est vrai, oui. C'était un grand orateur qui savait moduler, en fait, sa voix parlée sur plusieurs tons. Il faut à la fois qu'il y ait toute l'émotion de Notre-Dame et puis en même temps le contenu secret et merveilleux du cœur de la Vierge qui a médité tous les événements de la vie du Christ qu'on entend là-dedans.
Marqué, c'est vrai que je m'en souviens encore très bien.
C'est ambitieux, c'est ça, hein, voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Alors, je commence tout seul. Stabat mater dolorosa, iocta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, dum pendebat filius.
D'une certaine manière, c'est plutôt parce que j'avais cette sensibilité au son que je suis devenu dominicain. Non, j'exagère, c'est beaucoup dire.
Celle-là, d'ailleurs, ça ne doit pas être trop difficile, quand même. Mais avec l'émotion, on vient.
Ça permet de trouver plus facilement sa place dans une communauté de gens quand même assez divers.
On essaye ?
Oui.
Stabat mater
de toute façon, qui sont unis de façon un petit peu artificielle.
Ouais.
chant est un des grands lieux d'unanimité et de concorde dans une communauté, au sens propre, par l'harmonie. Et au sens figuré, par l'harmonie des caractères.
C'est ça, en fait, oui, c'est ça. On part sur MAM.
Vous y êtes ? Il y en a qui cherchent leur partition encore.
On a un dominicain, Jérôme de Moravi, qui écrit une encyclopédie musicale où transcrire toutes les connaissances musicales de son temps.
Beata vichera Marie.
Alors, vous ne voyez pas très bien, mais il y a une petite queue sur la première note du riz.
Et dans ce traité, Jérôme de Moravie décrit comment interpréter. Donc, c'est le seul texte du Moyen-Âge, en fait, qui soit aussi explicite.
Ce sera ce que je vous disais. Pa-pam, pa-pam, pa-pam. Bon, allez.
Marcel Pérez, bon, c'est un artiste qui est maintenant très connu. Il y a déjà, oui, au moins 20 ans que j'écoutais ses enregistrements. J'avais jamais eu l'occasion d'aller à ces concerts, mais Marcel Pérez fait un travail pour ressusciter des trésors de cette tradition liturgique.
Beata vichera Mariae Virginis.
Et c'est un texte vraiment fondamental que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, parce qu'il décrit des choses dont nous n'avions pas idée il y a 30 ans.
Bon. Alors, la rose de patience.
Pour moi, ce qui compte, c'est que ce chant vive pour moi, pour ma vie religieuse, pour ma prière.
Vous avez des sons qui sont séparés, après vous avez des sons qui sont groupés en deux, en trois, en quatre.
Que je retrouve ce qui a fait vibrer des frères il y a 8 siècles.
Le chant à cette époque a un vocabulaire très riche.
Ces frères-là, je les connais par leurs écrits, par leurs enseignements. Retrouver comment ils ont chanté des pièces.
Il s'agit par les mots de signifier ce qui n'apparaît pas sur la partition.
Et arriver à chanter comme ils ont chanté, nous les rapproche encore. On les sent presque être à côté de nous. Voilà. Donc ça c'est extrêmement émouvant.
Les Dominicains ont innové dans le sens qu'ils ont dû créer des règles, des points de repère pour pouvoir chanter ensemble. Parce que les Dominicains ont eu à affronter une nouvelle situation qui était inédite dans l'Église, c'est-à-dire leur communauté était constituée d'éléments hétéroclites, c'est-à-dire des hommes qui venaient de partout. Il y avait un Anglais, un Allemand, un Espagnol qui se retrouvent à Paris. Et puis chacun avait sa tradition et ils devaient chanter ensemble, ce qui était pratiquement impossible parce que chacun avait vraiment des traditions très différentes.
Vous avez bien vu, n'est-ce pas, sur le séculus, il y a une petite... comment s'appelle, une clisse, c'est ça, non? Comment c'était?
Oui.
Clisma, c'est ça, non?
Non,
Le rythme procède également des mots, des phrases. Que, en fait, ce sont les accents naturels de la langue qui permettent de rythmer une phrase.
C'est ça, je crois. Il en a parlé à propos de Léon IX, qui faisait très bien l'équilisme, paraît-il. Le pape Léon IX s'était même écrit sur cette pierre tombale. Il était habile à chanter l'équilisme. Voilà, c'est ce que nous a dit la classe.
Donc, la langue est en rythme musical, eh bien, on peut en tirer une rythmique.
Oui, il y a beaucoup de langues, de fait. Mais...
Et qui va, en fait, assez naturellement s'élaborer. Et de fait, je pense que cette rythmique, c'est la base de la manière dont nous interprétons la musique en français. C'est celle des mots.
On va essayer de l'antienne.
Nous avons eu à Marseille, pendant une célébration de la messe, donc un Irakien qui nous a chanté en araméen tout un hymne de sa voix un peu sourde, un peu grave, enfin qui était magnifique, qu'on a très peu l'habitude d'entendre. Et puis là, tout d'un coup, on était vraiment transporté, vraiment totalement ailleurs. D'ailleurs, ça nous a un peu coupé le souffle, en quelque sorte, c'était le psaume 1. Et... Là, tout d'un coup, on était à Jérusalem, au temps du Christ, avec la langue qu'il parlait, que les apôtres connaissaient. Et on s'est senti... On s'est senti à la fois chez soi, puisqu'on était chez le Christ, mais dans, justement, plus dans notre petit confort de choses qu'on fait entre nous, etc., de ceux dont on a l'habitude également. Mais on était vraiment participant à quelque chose de beaucoup plus grand que soi, tout d'un coup par ce contact avec la musique et par le chant araméen que nous a chanté cet homme.
Birga.
On se laisse façonner par cette liturgie au fur et à mesure, ce qui fait qu'on peut reprendre pendant 70 ans les mêmes chants.
L'acte de monter, donc une manière de faire monter la mélodie. Et salicus, c'est une manière de sauter. La pes quadratus, pulisma, une manière de faire tourner la voix pour faire un tremblement. Vocal en vrille, on les vrillait le son, le glissement.
Nous, cette recherche, c'est pour se rapproprier sans cesse, et c'est un travail sans cesse à faire, de nos racines. On n'arrive pas au XXe siècle seul, on arrive avec 800 ans d'histoire. Souvent, on reconnaît très facilement le pas des frères, leur pas et le bruit de leur rosaire, parce qu'on a des rosaires très différents. Il y en a. On se les transmet de frère en frère. À ma mort, un autre frère prendra ce rosaire. Que je porte à 70 ans, il y a déjà 70 ans de vie de prière derrière lui. Et donc ça fait partie de ce processus aussi de s'inscrire dans une continuité.
Frère,
Parfois, il y a des frères qui ont, j'ai l'impression, plus de médailles que de graines à leur rosaire, ce qui fait qu'on entend plusieurs cloches sonner en passant dans le couloir.
C'est un projet très stimulant parce que, d'une part, il s'inscrit dans une longue durée. C'est presque 2 ans que nous consacrons à cette redécouverte du chant dominicain des origines. C'est une musique qui est écrite, mais ce qu'il y a, c'est que pour l'interpréter, il faut trouver le son, l'énergie, la dynamique que génère cette musique.
Ah oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai, en fait. Oui.
Là où je pourrais prier simplement avec des mots, eh bien, la musique va donner, va colorer cette prière avec tout ce que la musique est capable d'apporter comme finesse d'expression.
Il n'y avait pas un coulisse fouette là sur
quel endroit?
Ah oui, c'est ça, oui, toi t'as fait raison. C'est ça.
Donc ce qui est écrit n'est qu'une partie de la formation, quoi. Il faut y ajouter de la chair, c'est un peu un squelette, quoi.
Il me semble.
Non, c'est pas un coulant, il n'y a pas les deux.
Il n'y a pas les deux.
Il n'y a pas les deux.
Tout à l'heure, on l'a fait, il n'y avait pas
oui,
les
mais
deux.
Oui, mais il y avait les coulisses. Hein. Si.
C'est quoi les coulissants? Il n'y a pas de coulisses.
Dans la tradition du chant grégorien, on a des centaines de pièces qui sont des variations sur comment dire Alléluia, comment dire louer le Seigneur. On pourrait se dire louer le Seigneur, il y a, bon allez, même en parlant, je peux avoir une dizaine d'intonations différentes.
Et là, il y en a deux, et là, tu me montres combien il y en a?
C'était sur ça qu'on disait tout à l'heure?
Oui,
ah oui, effectivement, il n'y en a pas deux. Très bien.
Donc, qui a raison?
Marcel Pérez.
Mais le grégorien, lui, arrive à faire des centaines de pièces différentes qui vont exprimer ce louer le Seigneur,
bon, la prochaine séance, c'est
quand avec à chaque fois une tonalité différente.
Sur ces textes, sur ces musiques écrites, sur cette notation qu'il faut apprendre à lire, mais grâce à ces éléments, on peut redonner vie et retourner vers l'acte vocal, vers l'oratio.
Alors, le tor... Avec Marcel Pérez, on apprend à chanter toute la note dans son intensité.
En fait, c'est une pique longue. Hein.
À mettre les notes au service du texte.
On refait, tu fais le primus.
Ce qui fait que les interprétations peuvent être très différentes selon comment on se sent, selon le lieu où on se trouve, selon les personnes qui écoutent, selon la fête que l'on fait ce jour-là.
Oui, c'est ça. Alors, voilà. Tu fais le primus? Oui, d'accord. Chouette. Voilà. Alors, on va faire comme ça que tout le monde aura sa voix. Tu fais le primus, toi? Avec Antoine? Toi, tu fais le primus.
Là-dessus, en fait, on s'exerce, mais à plusieurs, bien sûr, parce que comme c'est du chant en harmonie, de toute façon, moi, j'ai plus besoin de je déchiffre à vue, de toute façon. Donc, je n'ai plus besoin de répéter tout seul. En revanche, ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir faire l'harmonie avec les autres. Dans ce cas-là. Là, en effet, on cherche à ajuster, à être bien ensemble, à allonger les bonnes notes. Et donc là, il y a de fait une dynamique assez naturelle qui se met en place, oui, à plusieurs. Alors, ça va ?
Ah, ah tiens.
De l'autre côté, c'est en polonais, donc en effet, c'était plus difficile. Là, voilà.
Ah oui, non, c'est mieux en latin.
Oui. Parce qu'en fait, c'est un frère polonais qui me l'a donné. Ça. Comment ? C'est très très bien. Ah, c'est très bien, là. Oh, c'est très bien.
Alors, voyons.
Yes.
I have a brother from France, and I should be accommodated here for the practice of singing with Marcel Pérez.
Alors, il se trouve que nos frères de Pologne, dans les années 90, ils ont fait appel à un élève de Marcel Pérez pour réformer leur pratique du grégorien.
I'm not sure he's available now.
Excuse me, you are
Dominican brother.
Okay.
Yes.
Okay. From France.
Yes.
Yes.
Okay.
Yes.
Parce qu'ils avaient en fait un grégorien relativement habituel, enfin le même qu'ici, et ils ont trouvé que de fait ça ne permettait pas de chanter ensemble, qu'il fallait trouver une rythmique qui corresponde donc à leur à la grande taille de leur province, qui compte plus de 300 ou même 400 religieux.
Voilà. Alors, c'est un manuscrit de Cluny de la fin du XIIe siècle.
Et donc, pour ça, ils se sont penchés sur Marcel Pérez, cet élève dont les théories les ont beaucoup intéressés.
Donc, ça, c'est un des premiers manuscrits en notation carrée.
Alors, je suis très intéressé par voir comment eux chantent un répertoire qui est plutôt d'origine méditerranéenne. Hein, d'après Marcel Pérez, l'infléchit beaucoup dans ce sens-là. Méditerranéenne, italienne, grecque, même juive un peu. Et je suis intéressé de voir comment eux font, comment eux chantent ça, comment aussi on peut apprendre à chanter ensemble de façon à pouvoir ici pratiquer ce chant plus régulièrement.
Alors, ici, je vais vous montrer comment on peut lire ce chant en utilisant la deuxième manière de Jérôme de Moravie, la manière française.
Parce que, de fait, là-bas, à Cracovie, ils chantent à peu près tous les soirs avec ce style, dans ce style-là.
Quand on a deux notes répétées, la première est brève.
Donc, ça doit être possible.
Quand on a un mouvement ascendant de trois notes, la première est semi-brève.
Mais ça demande du travail, bien sûr. Alors c'est pour ça que je vais là-bas.
Après, quand on a un mouvement circonflexe...
Et puis aussi, c'est dans ce souci d'élaborer un répertoire commun avec des frères d'un autre pays.
Et c'est tout. Les notes répétées.
Parce que moi j'aimerais beaucoup, in fine, qu'on puisse... avoir des échanges entre différents pays d'Europe ou d'ailleurs, mais fondés sur ce bien commun de l'ordre qui est sa liturgie.
Les Dominicains mettent l'accent, hein, et c'est ce qui fonde un peu leur originalité sur la prédication. Donc vous devez lancer les phrases d'une certaine manière, proclamer avec une gravité, c'est-à-dire avec une lenteur. Le premier objectif, c'est d'être reçu, d'être entendu. Et le son, qu'est-ce que c'est ? C'est une percussion des cordes vocales, évidemment, mais qui se transmet dans l'air. Donc vous créez des ondes dans l'air, quoi. C'est ce fluide qui doit rentrer en phase avec les proportions de l'édifice. C'est la raison pour laquelle le lieu de vous chanter dans une église est très importante. Et on s'aperçoit que chaque chant de la liturgie a une forme musicale particulière et a une directivité aussi particulière. Une église comme celle des Jacobins à Toulouse, et bien c'est vraiment comme un instrument de musique qu'il faut faire sonner.
Les Jacobins à Toulouse, donc une église du XIVe siècle, qui n'est pas tout à fait dans son état originel, puisqu'elle est sans doute plus vide qu'elle n'avait pu l'être, et donc son acoustique est modifiée, mais a été pour nous une école très intéressante, parce que donc lorsque nous célébrons la messe avec des chorales, nous avons constaté plusieurs fois que c'était difficile, que le son se diffusait mal. Alors à chaque fois, nous attribuions cela au fait que l'église est vide. Et on se disait, ben voilà, l'acoustique n'est pas celle de l'origine. Et en fait, quand nous avons travaillé avec Marcel Pérez, qui a le sens immédiat de l'acoustique d'un lieu, qui sait la saisir, donc qui sait adapter le flux de la voix, le rythme également du chant, eh bien là, d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'avec quelques personnes, les Jacobins se transformaient en une extraordinaire caisse de résonance, et pour le coup, qu'en fait, il a une très bonne acoustique, simplement, il faut la trouver, hein, il faut la découvrir. Et de fait, si on le trouve, eh bien, on se rend compte que c'est vraiment une église qui est bien faite pour la liturgie.
C'est un bâtiment qui a sa vie propre.
Il faut chanter plus lentement.
Elle aime la voix.
Donner de la voix, mais avec un rythme qui est plus solennel, en quelque sorte.
Elle a une petite tendance à aimer le silence.
Marcel Pérez, dans ses recherches musicologiques, a identifié une forme de chant du Moyen-Âge qu'il appelle la manière française, qui consiste à ce que toutes les notes soient longues.
Les sons s'y comportent de manière très bizarre.
Les hommes du Moyen-Âge avaient une théorie de l'homme instrument, qui compare l'homme à un luth. Et dans la symbolique médiévale, les églises plutôt sont elles-mêmes des corps. Des jambes qui sont les colonnes, avec une caisse de résonance, avec un chœur qui est l'autel où on célèbre la messe. Et donc, cette symbiose entre le corps de pierre et le corps de chair, eh bien, c'est cela qui peut, de fait, permettre d'utiliser l'église comme un instrument. Et c'est vrai qu'en fait, l'Église nous renvoie quelque chose. C'est comme, en fait, si lorsqu'on chante dans cette Église, eh bien, c'est comme un appel, en fait, à ce que tous ces murs ont entendu. Et dont le souvenir est comme inscrit dans les pierres. Et donc, d'une certaine manière, on ouvre les pierres pour qu'elles libèrent le son qu'elles contiennent. Qui m'a beaucoup ému, c'était ces vigiles de Saint Thomas que nous avons chanté aux Jacobins au mois de janvier dernier, avec un office qui n'avait pas été chanté depuis 220 ans, en fait, dans cette église. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment eu une expérience de son liturgique, au plein sens du terme, pour communier avec ces religieux qui ont chanté cet office pendant des siècles à cet endroit-là.
Nous étions 6 novices. Nous partons aussitôt quasiment pour une semaine de retraite chez nos sœurs, où le père maître va nous expliquer ce que c'est que la prise d'habit, ce que c'est que le noviciat, ce qu'il attend de nous. Et le samedi après-midi, pendant le grand office des vêpres, des premières vêpres du dimanche, nous revêtons l'habit. Les familles sont là d'habitude. Donc pour elles, c'est un détachement parce qu'elles vont voir leur enfant prendre un nouvel habit et recevoir un nouveau nom dont on ignore par avance son contenu. On se met à genoux devant notre supérieur et il nous dit « Dans le monde, vous vous appeliez, par exemple, pour ma part, Philippe Roussel, désormais vous serez frère Marie-Philippe. » Et c'est vrai que le nom est quelque chose un peu important pour les familles parce que c'est le nom que les parents ont donné à leur enfant. Et donc, il y a une sorte de dépossession de leur enfant lorsqu'on entend un nouveau nom qui lui est attribué. On entre dans une famille qui a 800 ans d'histoire. On est un maillon de cette chaîne immense.
Ce qui est très riche dans la musique liturgique, c'est que nous avons aujourd'hui, on est à 20 siècles de tradition, d'une musique qui n'a jamais été figée, qui a toujours évolué. Toute musique liturgique, elle va être liée aussi à son époque, à la culture qu'il a vue naître. De sorte que je pense que chaque époque va trouver des accents particuliers, parce qu'elle a son style. Un chant, une mélodie grégorienne du 9e-10e siècle, elle est porteuse de la culture de l'homme médiéval du 9e-10e siècle. Elle a quelque chose à nous dire parce qu'elle a su exprimer des choses que nous ne savons plus exprimer.
chant liturgique est une musique cosmique. On commence par l'office du lever du jour, les laudes. Il commence dans la nuit, qui se termine quand des lueurs, première lueur, arrive dans l'église. Ensuite, l'office de la sixième heure, qui est lorsque vous soyez sa sosie, etc. De 3h en 3h.
Les noms même des offices signifient une inflexion différente. C'est-à-dire que les laudes, c'est la louange. Donc, or, le matin, le soleil se lève, et il faut avoir un petit peu la voix d'un coq qui chante. Et c'est-à-dire pour réveiller le soleil, pour que le monde se mette en train. Ça, de fait, c'est une inflexion particulière des laudes, qui est ce temps de louange pour le retour du jour. Alors que l'office du soir, l'office dit de vêpres, donc ça veut dire office de soir, au moment où la nuit tombe, justement, où on rentre dans le repos et dans le silence. Et tout ceci se traduit par des modes, hein, des tons. On ne chante pas sur le même registre, ni dans les mêmes tons, suivant qu'on est le matin ou le soir. Le chant est une pratique incarnée et donc qui suit les rythmes de la personne, les rythmes du jour, les rythmes des saisons. Ce rythme qui est impéré par la vie moderne, qui est celui du travail, salarié, celui que la plupart d'entre nous exercent, est un rythme qui n'est pas tout à fait naturel, au fond. Nous nous porterions beaucoup mieux à distribuer repos et veille de façon complètement différente de nous le faisons aujourd'hui, et au fond que la nuit soit un temps également de léthargie, mais un temps consacré à des choses plus intéressantes. Et c'est vrai que la liturgie, de fait, accorde autant d'importance aux offices de nuit qu'aux offices du jour. Là, de fait, c'est peut-être l'indice d'une sagesse humaine, bien enracinée dans notre personne, dans notre anthropologie.
Et là, on découvre aujourd'hui qu'en fait, d'un point de vue simplement physique, sonore, on ne chante pas de la même manière à 6h du matin, à midi, à minuit, à 3h d'après-midi.
Alors ces paramètres qui étaient fondamentaux pour les anciens, aujourd'hui sont secondaires, même on n'y pense pas du tout. Et la religion est devenue un peu une métaphore, une allégorie et une morale. Alors que pour les anciens, c'était d'abord un enracinement dans la course, dans l'harmonie cosmique et le chant de l'homme dans la liturgie était l'instrument de cette harmonisation.
Tanto sopra ceio, tanto sopra.